Bonjour. Alors je vous invite à prier juste pour commencer. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta parole. Merci si tu nous parles au travers d'elle aujourd'hui encore. Merci pour ce qu'elle peut nous apporter. Seigneur, aide-nous à bien comprendre aujourd'hui ce que tu veux nous dire et qu'on puisse en retirer quelque chose pour nos vies. Amen. Alors, comme Manu l'a dit, nous poursuivons notre parcours dans les lettres de Jean, et nous sommes qu'à la première, mais on arrive vers la fin, et nous sommes donc au chapitre 4, et nous allons lire aujourd'hui les versets 7 à 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici comment l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation en ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà pour notre texte aujourd'hui. Donc dans le contexte un petit peu de la lettre, donc Jean écrit à ses enfants spirituels, à des chrétiens, probablement à Éphèse, et il veut plusieurs choses. Tout d'abord, au travers de cette lettre, il veut les réjouir et se réjouir avec eux. Il veut les prévenir de tout égarement moral. Il veut les avertir des dangers qu'ils courent. Il veut les édifier. Il va leur donner également l'assurance de leur salut. Et dans le passage que nous avons lu, le sujet principal est l'amour. S'aimer les uns les autres. Et ce texte nous apporte quatre raisons, quatre motivations, quatre encouragements, on pourrait dire, à nous aimer les uns les autres. Au verset 7 et 8, Jean écrit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Puis plus loin, au verset 16, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et Dieu demeure en lui. Son premier argument, l'amour vient de Dieu. Dieu est amour. Alors pour ceux qui étaient là, je pense que c'était le culte juste avant Noël, c'est Yann qui avait particulièrement parlé de ce sujet-là, que l'amour est dans l'ADN de Dieu. Tout comme la lumière, la justice, ce sont des choses Dieu est amour. Et cet amour est aussi actif au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit. On peut lire par exemple en Jean 17, au verset 24, cette prière de Jésus avant son arrestation, où il dit au Père, « Tu m'as aimé avant la création du monde. » De tout temps, au sein de la Trinité, ils vivent l'amour. De toute éternité, Dieu est amour. Tout amour véritable est issu de Dieu. Dieu est la seule source de l'amour. Le second argument, au verset suivant, les versets 9 et 11, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Le Dieu qui est amour nous a aimés. Il a manifesté son amour. Il l'a mis en œuvre. Il l'a fait en envoyant son Fils sur la terre. Le verset 14 nous le rappelle. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. L'origine de l'amour est dans l'être même de Dieu. Mais la démonstration de son amour, c'est dans la venue de Jésus. Ce n'est plus à ce moment-là une vérité abstraite qui est la raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, mais c'est un fait, c'est du concret. Dieu a montré son amour au travers de tout le parcours du peuple d'Israël, comme nous le rapporte l'Ancien Testament. Mais là, c'est l'apogée. Le don de Jésus est la révélation concrète de l'amour de Dieu. Et ce don est extraordinaire pour plusieurs raisons. C'est son Fils unique que Dieu envoie. Il n'y a pas de don plus grand possible. Et ensuite, Dieu n'a pas juste envoyé son Fils, mais il l'a envoyé pour mourir. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. La troisième raison pour laquelle ce don est extraordinaire, c'est que cette grandeur de l'amour de Dieu se manifeste aussi par ses bénéficiaires. Christ est mort pour des personnes qui ne sont pas dignes de cet amour. Mais l'amour de Dieu est tel qu'il va au-delà de qui nous sommes. Alors ce don de Jésus nous apprend, nous rappelle plusieurs choses. Qu'au travers de cet exemple parfait de Christ, on peut voir que l'amour, c'est donner de soi, de soi-même, pour apporter une bénédiction ou un bienfait aux autres. Personne ne peut retourner à une vie égoïste, centrée sur soi, après avoir découvert l'amour de Dieu à la croix. La troisième raison pour laquelle nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, c'est que Dieu demeure en nous. On peut lire au verset 12 et 13, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. » Dieu, qui est amour, aime encore aujourd'hui. Et c'est au travers de notre amour que se voit son amour. Ce Dieu invisible, qui autrefois s'est révélé au travers de Christ, maintenant se révèle par son peuple, au travers de l'amour que les membres de son peuple ont les uns pour les autres. Leur amour est celui de Dieu, répandu en eux par son Esprit Saint. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous sommes encouragés à mettre en pratique l'amour les uns pour les autres. Dieu demeure en nous, et c'est son amour qui est ainsi à l'œuvre. La seule façon d'aimer, c'est que nous demeurions en Dieu, et que Dieu demeure en nous. Si je relis les versets 15 et 16, « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons vu l'amour de Dieu. » L'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors cependant, dans ces versets, il ne faut pas se méprendre. C'est parce que Dieu demeure en nous, au travers de son esprit, que nous sommes capables de croire et d'aimer. Et enfin, le dernier argument, à la fin du texte, dans le cas où l'argumentation précédente ne suffirait pas, au verset 21, il rajoute juste « D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est dans Jean chapitre 13, où Jésus parle à ses disciples un peu avant d'être arrêté, il leur dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez, que vous aurez les uns pour les autres. » Christ nous le demande directement, et ensuite, dans les différentes lettres, dans la suite du Nouveau Testament, d'autres enseignements vont dans ce sens. Par exemple, en Hébreux 10, « Veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Alors, après avoir parlé de ces quatre raisons pour s'aimer les uns les autres, Jean va nous parler de l'effet d'un tel amour. Au verset 17, il écrit « Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. » L'assurance est un thème que Jean a déjà évoqué. Il ne veut pas faire peur aux chrétiens auxquels il écrit. Non, au contraire, il tient à les encourager. Il sait qu'au jour du jugement, nous aurons tous à comparaître. Nos paroles, nos actions seront rendues publiques. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, Paul écrit « Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ? Car il est écrit « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je ne sais pas pour vous, mais au regard de ma vie, je pense pas que je puisse être fier devant Dieu d'un seul des jours que j'ai vécu. Cette perspective de jugement peut faire peur. Mais Jean nous rappelle que nous pouvons avoir une entière assurance face à ce jugement à venir. L'amour vécu les uns envers les autres est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Notre situation est la même que celle de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons partager la confiance de Christ. En Romains 8, on peut lire « L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage du Saint-Esprit n'est pas seulement intellectuel. C'est une conviction profonde qu'il forge en nous. La confiance que nous partageons avec Christ va au-delà de la crainte. Il n'y a plus de raison de craindre Dieu. Nous sommes simplement appelés à aimer. Aimer Dieu et aimer nos frères. Alors concrètement, comment le faire ? Comment le pratiquer ? C'est probablement pas quelque chose de nouveau que vous allez entendre aujourd'hui, et je sais, j'en suis le bénéficiaire, que vous pratiquez déjà l'amour les uns pour les autres. Mais je suis sûr quand même quelque chose toujours bon à se rappeler. Le premier point, c'est que nous sommes invités à aimer à l'image de Dieu. L'amour parfait de Dieu s'est révélé au travers du don de Christ pour l'expiation de nos péchés. L'amour implique un don de soi. Et l'amour est là pour apporter une bénédiction à l'autre. L'amour parfait de Dieu est vécu dans la Trinité. Il y a là un caractère éternel. Mais il y a aussi un caractère réciproque, mutuel, qui révèle une unité forte. Alors vis-à-vis de qui sommes-nous appelés à vivre cet amour ? Dans ce texte, Jean parle à une assemblée de chrétiens. C'est avant tout là que nous sommes invités à exercer l'amour réciproque. Dans notre assemblée ici à Grasse, dans nos familles. Et pour réfléchir à la manière de l'exercer, je vous propose deux axes pour y réfléchir. Le premier, c'est un texte bien connu de Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Pendant que je vais le lire, je vous invite à penser à notre vie, à nos relations ici dans l'église ou ailleurs si vous préférez. Essayez de réfléchir à ces différents aspects de l'amour sur lesquels on a la possibilité de progresser. Donc dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. il espère, il persévère. Vivre l'amour, c'est vivre tout cela. Patience, bonté, ne pas être envieux, ne pas être orgueilleux, ne pas tramer le mal, se réjouir de la vérité, pardonner, faire confiance, espérer, persévérer. Dans les différentes lettres que l'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, les caractéristiques des relations souhaitables entre les caractéristiques des relations souhaitables sont présentées dans ces différentes lettres. Et nous sommes en particulier appelés à nous servir les uns les autres. En Galates 5, verset 13, « Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. En 1 Thessaloniciens 5, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous sommes invités à nous avertir les uns les autres. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, dans Colossiens 3, verset 16. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre connaissance à Dieu. Nous sommes invités à être patients les uns envers les autres. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres. Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens. Plus loin, il dit, nous sommes aussi invités à nous pardonner les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes invités à porter nos fardeaux. Dans la lettre aux Galates, frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Nous sommes invités également à accepter nos différences. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 15. Et dans Jacques chapitre 5, nous sommes invités à confesser nos péchés et prier les uns pour les autres. Alors que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Mais comme l'a dit Manu dans son introduction, ce changement en nous est progressif et très certainement rempli de luttes. Mais l'Esprit de Dieu en nous rend possible cela. Nous pouvons compter sur son œuvre de transformation, que nos relations soient remplies d'amour. Amen.